Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous sommes à nouveau dans le studio de notre bien chère radio pour parler de la musique. Il y a 15 jours, nous avons entendu Marie-Reine Renan qui nous parlait des maîtrises avant la Révolution, des maîtrises qui sont des petites chorales d'enfants affectées à des cathédrales où les enfants apprennent tout ce qu'il faut savoir sur la musique. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir Marie-Reine Renan avec nous qui va nous parler de ce sort que vont subir les maîtrises après la Révolution. Donc, bienvenue dans notre émission consacrée aux maîtrises dont vous êtes une grande spécialiste.
Merci, bonjour.
Alors, parlez-nous peut-être un peu de votre thèse, puisque vous avez consacré une thèse de doctorat.
Oui, c'est très simple.
Vous êtes docteur en musicologie.
C'est très simple. Je suis l'historienne de la maîtrise de la cathédrale de Bourges, et c'était ma thèse il y a quelques années maintenant déjà.
Et vous avez une petite coqueluche, un petit musicien que vous avez suivi de la maîtrise
jusqu'à
ça.
Ah oui, j'en ai parlé il y a 15 jours, le petit Nicolas Pacotta, effectivement.
Pour ne pas le rappeler à nos chers auditeurs qui ont sans doute pu suivre cette émission qui était très intéressante et nous avons beaucoup appris. Alors, que se passe-t-il donc avec les maîtrises au cours de la Révolution et après la Révolution?
Eh bien, c'est le grand choc aussi pour les maîtrises, puisqu'à la veille de la Révolution, il y avait 400 maîtrises en France, et la Révolution a tout arrêté. Les églises ont été fermées, et les chanoines, les prêtres se sont dispersés, les maîtrisiens sont partis. Alors certains, là, sont rentrés comme instrumentistes dans les musiques militaires, et d'autres, bien, ont attendu que le cataclysme passe. Et après, on essaye de reconstituer tout cela. Alors, il faut reconstituer le culte, il faut souvent réparer les églises abîmées, et on va vouloir restaurer tout ce qu'il y avait avant. Alors, tous ces propos-là rentrent dans ce grand courant de la restauration du chant grégorien par Solesme, qui va avoir lieu à partir vers le milieu du siècle. Et puis, en même temps, ce grand engouement pour le Moyen-Âge, je pense à Chateaubriand, le génie du christianisme, je pense aussi à Viollet-le-Duc, qui petit à petit aussi va s'intéresser aux cathédrales. Alors, restauration, c'est un mot nouveau, parce que jusque-là, on ne restaurait rien, prenait des pierres d'un monument pour en construire un autre, mais on ne restaurait pas. Et en musique, c'est pareil. On veut restaurer, on voudrait retrouver le grégorien dans sa pureté initiale, entre parenthèses, qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas comment Saint Grégoire chantait le grégorien. Alors, la rénovation des maîtrises rentre dans ce grand mouvement. Et alors, comme les écoles musicales créées par la Révolution, c'est-à-dire l'embryon de ce qui va être en 1795, le Conservatoire de Paris, ces écoles ne forment que des musiciens militaires et des chanteurs qui chantent l'opéra à la mode ou qui savent déclamer. Parce que, comme disent les révolutionnaires, il n'y a aucune fête sans musique, donc il faut des musiciens qui collent avec ces fêtes-là. Donc, à Paris, vont se créer quelques écoles sur des initiatives privées. Ensuite, les ministres des cultes vont appuyer certaines écoles pour qu'on apprenne l'orgue et puis le chant liturgique. Et puis vers 1810, dans la plupart des grandes cathédrales de France, petit à petit, on refait des maîtrises. Alors, on fait comme on peut dans cette situation difficile. C'est souvent un vieux chantre qui a subsisté à la Révolution qui prend des enfants chez lui. À Bourges, on a un joueur de serpent qui habite près de la cathédrale et qui va loger chez lui, 8 ou 9 enfants, et faire ce qu'il peut avec. Alors, cela va aussi susciter des querelles, parce qu'après la Révolution, il y a donc les vieux d'avant la Révolution qui reviennent, ils sont très contents de revenir, ils sont chez eux. Et puis, il y a des nouveaux qui sont nommés, alors ça va être la querelle des anciens et des modernes, et il y a encore des petites histoires incroyables autour du lutrin dans les chœurs des cathédrales. Par exemple, les enfants se moquent des vieux chantres, mettent du papier dans les serpents. Lorsqu'il y en a un qui fait un solo, il s'arrête tout d'un coup en plein solo au milieu de la messe parce que les enfants lui font des grimaces. Et puis il y a des choses un petit peu plus dures aussi qu'on en trouve dans les archives.
Alors, tel maître d'orgue, organiste qui enferme les enfants qui ont mal souffleté là-haut dans la tribune.
Oui. Et puis il y a aussi les souffleurs d'orgue qui sont ivres et puis qui oublient de souffler. Alors, il n'y a plus de son sous les doigts des organistes. Enfin bon, je l'ai dit la dernière fois, nous sommes dans un microcosme très humain, donc très vivant. Et c'est très bien aussi, c'est la création aussi.
Donc, les petits maîtrisiens, c'était des jeunes garçons pleins de...
Comme tout enfant, plein de vie, des petits trublions.
Toujours prêts à faire des bêtises. Mais on ne les appelle pas les bêtisiers pour cela.
Non. Et alors, qu'est-ce qu'on va chanter après, quand on se relève, après la Révolution? Eh bien, il va y avoir des réformateurs et des musiciens. L'Église a toujours eu besoin de musiciens. Il va y avoir de très bonnes qualités dans certaines villes de province et à Paris aussi. Et par exemple, il y a une pièce qui est chantée après la Révolution et qui va être chantée tout le long du 19e siècle, qui est très renommée dans toutes les cathédrales. C'est l'Ave Maria. Alors, dans les programmes, on voit qu'il est nommé Ave Maria d'Arcadelt. Arcadelt, c'était un musicien qui est mort en 1568, un musicien de la Renaissance. Et en fait, c'est un Dijonnais qui s'appelait Ditch, un homme d'église, un musicien d'église, qui a pris une chanson d'amour d'Arcadelt et qui, dessus, a changé les paroles et a mis des paroles pieuses, à savoir l'Ave Maria. Il ne faut pas du tout qu'on soit choqué de ces choses-là. Dans le Moyen-Âge, ça se faisait beaucoup. On n'avait pas dans les temps anciens une séparation comme ça entre le corps et l'âme, le profane, le sacré. L'homme était un tout, et alors on voit beaucoup au Moyen-Âge des travestissements comme ça de musique, une musique d'amour, et bien après ça, il y a un chant d'amour à la Sainte Vierge, et pourquoi pas. Alors, cet Ave Maria d'Arcadelt, qui était un chant de la Renaissance, a été très répandu jusque même à la Première Guerre mondiale, dans les maîtrises. Donc, nous allons l'entendre.
Après cette belle musique de l'Ave Maria d'Arcadelt, que vous nous avez présentée comme à l'origine avoir été une pièce d'amour, un chant d'amour.
Oui, une chanson profane.
Une chanson profane sur laquelle on a adapté des paroles de l'Ave Maria. Nous sommes toujours donc après la Révolution, la Renaissance de la musique liturgique. Vous nous aviez expliqué dans la précédente émission qu'effectivement on n'avait pas noté toutes ces musiques qui ont faisait de la musique ad hoc, viva voce. Maintenant, il faut tout réorganiser. Nous sommes au 19e siècle. Faisons un petit saut en avant. Allons vers 1903, où Pie X va.
Oui, 1903, c'est une date importante pour la musique d'église parce que un pape, Saint Pie X, va s'intéresser à la musique. Il était lui-même grand pianiste. Donc, même quand il était patriarche de Venise et avant évêque d'Arezzo, il avait déjà écrit des lettres pontificales sur la musique. Donc, enfin, on a eu déjà quelques législations, depuis Jean XXII au XIVe siècle. Mais enfin, on va avoir un grand texte qui va être utilisé pratiquement jusqu'à Vatican II. On va en ressentir les conséquences. Alors, c'est un texte qu'il a écrit de lui-même. C'est pas une encyclique, c'est un motu proprio qu'on considère comme le code de la musique d'église. Alors, en gros, il dit avec juste raison que le chant grégorien, c'est le chant patrimonial de l'église depuis qu'elle existe et qu'il faut donc le conserver. C'est le chant propre de l'église catholique romaine, mais également que l'on peut chanter de la polyphonie. Et là, pour lui, pour cette époque-là, le fin de la polyphonie, c'était la polyphonie de la Renaissance, justement, dans le style de ce qu'on vient d'entendre. Et puis, il dit que des chœurs doivent se former. Mais à cette époque-là, on est en 1903, il dit des chœurs uniquement de jeunes gens et d'hommes, de façon à propager le chant. Mais il souhaite aussi que les fidèles, quand même, à force d'écouter certains chants, participent. C'est en cela qu'il est moderne. Donc, ce mouvement-là va être un mouvement très, très important. Et beaucoup de musiciens vont se mettre à l'œuvre pour composer à la manière de Palestrina des œuvres polyphoniques. Et puis on va voir dans ce mouvement de chorale d'hommes, on va voir se créer ce qu'on appelle des scola, c'est-à-dire des grands chœurs au départ d'hommes et puis très vite mixtes parce qu'on va arriver vers la Première Guerre, vers la modernité. Et puis pendant la Première Guerre, les hommes étant partis au front, c'est comme ça que les femmes vont intervenir de plus en plus dans les églises. Donc ces grandes scola, on en trouve partout. À Bourges, c'était Monseigneur Signargou, Monseigneur parce qu'il était nommé par le pape, c'était une distinction papale, c'était pas l'évêque de Bourges, un grand musicien qui va rassembler jusqu'à 200 personnes pour chanter, bon, à la messe avec la maîtrise qui va se reconstituer. Et la maîtrise dans ces temps-là, c'est pas 6 enfants comme autrefois, c'est des classes entières d'école primaire, c'est 40 maîtrisiens plus des chantres. Donc c'est l'époque des grandes foules et on va justement avoir la possibilité de chanter les œuvres clés du répertoire. Et ces gens-là ont laissé beaucoup de souvenirs musicaux. Il y a toujours à Bourges une association musicale qui travaille avec la maîtrise actuelle et le maître de chapelle qui s'appelle la Schola Saint-Étienne de Bourges. Et par exemple, ce monseigneur Signargou qui dirigeait la Schola avait composé une grande bénédiction pontificale polyphonique. Eh bien, encore il y a 15 jours, à la messe de la cathédrale, pour les grandes messes solennelles, elle est chanter, nous allons l'entendre.
Sit nomen Domini benedictum.
Après cette bénédiction somptueuse, chère Marie Renaud, qui avait assuré un cours sur les musiques des cathédrales à notre belle école du patrimoine du vitrail ici à Chartres, organisée par le Centre du vitrail, nous serions heureux que vous puissiez continuer à nous parler du renouveau de la musique après la Révolution.
Alors, par exemple aussi, donc j'ai dit tout à l'heure, œuvre clé du répertoire, on a monté alors à Bourges pendant 20 ans que ce musicien était là, Bourges a eu l'occasion d'entendre les grandes œuvres, et ces musiciens-là avaient tous été formés à Paris, à la Schola Cantorum, qui s'était formée justement pour promouvoir le chant religieux, donc ces musiciens de province étaient en relation avec le milieu musical parisien, et les grands solistes de l'opéra venaient à Bourges pour chanter des opéras, ou pour faire des solos dans les oratorios, etc. Par exemple, là, nous allons écouter maintenant d'Haendel un Alléluia. Pas celui que vous croyez, mais l'Alléluia de Judas Maccabée.
Thank you.
Marie-Reine Runon, docteur en musicologie, nous a fait écouter ce magnifique Alléluia et je pense que vous allez encore peut-être nous parler des maîtres de musique.
Oui, je vais sortir un peu de Bourges tout de même. À Dijon, il y avait un musicien d'église très renommé qui a laissé beaucoup d'écrits. On commence à s'intéresser à lui maintenant. Il y a eu un colloque à Dijon il y a peu sur ce musicien. C'est Joseph Sanson. Et Joseph Sanson était très pédagogue, connaissait bien l'art grégorien et a su allier, comme le recommandait Saint Pie X, le chant patrimonial de l'Église avec ses techniques compositionnelles à lui. Et c'est ce qui ressort justement d'un chant là que nous allons entendre, un chant où on va sentir l'osmose entre les deux, la monodie d'une part, puis tout d'un coup la monodie fleurit en polyphonie. C'est tout à fait dans le souhait de Saint Pie X.
Nous sommes dans le studio avec Marie-Hélène Renan et nous consacrons notre émission aujourd'hui à la musique de cathédrale. Marie-Hélène Renan est grande spécialiste de la musique des maîtrisiens et elle va peut-être pouvoir encore rajouter quelques petits mots sur les manécanteries des écoles où on enseignait le chant.
Oui, c'est aussi à l'aube du XXe siècle que c'est créé, grâce notamment à Paul Berthier, la manécanterie des petits chanteurs à la Croix de Bois. Et puis ensuite, la direction a été prise par l'abbé Maillet, qui est devenu Monseigneur Maillet. Et ce mouvement-là a fleuri un petit peu partout en Europe, très soutenu par les papes. Et du coup, beaucoup de maîtrises existantes se sont affiliées aux manécanteries. Cela a donné le mouvement que l'on connaît de nos jours, la Fédération des petits chanteurs, la Fédération des pueris cantores. Et avec des congrès tous les deux ans qui se situent à certains points du monde, avec des œuvres qu'on étudie toute l'année pour chanter en commun. C'est quelque chose qui donne un grand souffle musical, certes, mais spirituel aussi.
Donc ces manécanteries, aujourd'hui, ce sont des chorales de petits-enfants qui voyagent beaucoup, qui sont affectés à une école.
C'est-à-dire manécanteries, les petits chanteurs à la Croix de Bois, on dit manécanteries, mais c'est synonyme de psalette ou de maîtrise. Manécanteries, ça veut dire chanter le matin, on pense aux offices du matin. Mais ça devient synonyme. La maîtrise de Bourges, par exemple, qui est la maîtrise de la cathédrale, la maîtrise de Saint-Pierre de Poitiers, sont affiliées à ce mouvement de manécanterie.
Et comment est-ce que tout cela a évolué au cours du temps pour arriver à nos jours ?
Eh bien, pour arriver à nos jours, cela a évolué avec les mentalités, avec l'évolution de chacun, avec les sciences qui se développent, donc le goût qui se modifie. C'est normal, c'est aussi la vie, même si on garde le fond patrimonial. Je l'ai déjà dit, mais j'aime redire des idées comme ça. De nos jours, à nouveau, on va remêler un petit peu le profane et le sacré. Vatican II est passé par là aussi, donc a élargi déjà ce qu'avait dit Saint Pie X. Et alors, de nos jours, la sociologie aussi a fait des progrès. On a étudié aussi les différents types d'auditeurs. À la messe, il y a des auditeurs distraits, des auditeurs passionnés, des auditeurs qui prient, d'autres qui écoutent ça simplement comme un fond sonore. Enfin, on profite des études notamment de Adorno. Et puis, on s'intéresse beaucoup de nos jours au chant traditionnel, donc un chant vivant qui ne repose pas forcément sur les cris, pas un chant savant, mais un chant qui jaillit des profondeurs de l'humanité. Et puis, on s'intéresse aussi aux chants d'autres sociétés, notamment en Orient. Il y a des sociétés où le chant est présent quotidiennement. Les gens vivent dans la musique, dans cette musique pratiquée constamment. Donc, tout ça, ce sont des apports qui ont nourri notre société, notre musique. Et, ça se ressent dans les chants actuels, les chants sacrés. Allons à la messe maintenant, à droite ou à gauche de nos jours, c'est plus du tout comme quand nos parents y allaient il y a 80 ans. Alors, tous ces apports-là, c'est un enrichissement. Et Vatican II l'autorise. Vatican II maintient le grégorien, mais entre deux virgules dit bien et toutes autres choses égales. Du reste, c'est cette fameuse chose entre deux virgules qui fait angloser. Mais on n'est pas là pour faire ce débat-là. Et on va dans les maîtrises actuelles, eh bien, il y a beaucoup d'œuvres contemporaines aussi. Et le chant s'est libéré de certains carcans, même l'interprétation, même les cours de chant maintenant ont un cours de chant, c'est l'éducation du souffle. Tout le corps participe, c'est plus du tout ce que c'était il y a un siècle. Donc ça va se ressentir. Et vous savez que de nos jours, on a aussi beaucoup d'écoles maîtrisiennes dans les conservatoires, c'est-à-dire des maîtrises laïques. Là, on chante pas pour la gloire de Dieu, quoique toute musique ait plus ou moins quand même un fondement sacré. Mais je veux dire, le but officiel n'est pas le même. Et alors, que ce soit les maîtrises de conservatoire ou les maîtrises de cathédrale, c'est sûr que tout le monde là s'efforce d'harmoniser les petits enfants, c'est-à-dire d'harmoniser l'homme, celui qui sera l'homme de demain. Alors on va prendre un exemple. Par exemple, on va prendre sur un enregistrement de la maîtrise de Poitiers, je crois. On va prendre un chant de Gorecki. Gorecki, c'est un compositeur contemporain qui est né en 1933, il me semble, et qui avait composé un chant à la Vierge quand le pape Jean-Paul est venu à Varsovie dans les années 85-87. Alors vous allez vous en rendre compte. C'est un chant très minimaliste. Il y a peu, c'est pas du tout quelque chose de grandiose comme tout à l'heure, la fameuse bénédiction pontificale de Bourges. C'est quelque chose qui procède par des matériaux très simples, par répétition. C'est un petit peu envoûtant, mais justement, en disant envoûtant, on retrouve là un peu l'effet que font certaines musiques orientales. C'est là l'apport de quelque chose qui vous amène à la contemplation, qui vous rend immobile tellement c'est envoûtant. Donc on va en sentir la marque dans ce chant à la Vierge de Gorecki.
Nous allons conclure cette belle émission sur la musique des maîtrises après la Révolution avec un petit clin d'œil vers l'orgue, la musique de l'orgue.
Oui, parce que les organistes et l'orgue participent aussi, accompagnent les maîtrisiens, donc c'est très important. Et l'organiste aussi, avec sa musique, maintenant a une part très efficiente dans la liturgie. Ces chœurs, ces maîtrises actuelles aussi ont une action liturgique, c'est pas simplement un décor. Et puis quelquefois, elles invitent l'assemblée à reprendre. On est bien dans la ligne aussi du Concile Vatican II. Alors l'orgue a aussi un rôle important avec toute sa prégnance, avec tout ce que les résonances qu'il peut y avoir sous les voûtes de cathédrale aussi. C'est relié aussi au souffle et encore une fois à l'homme et à la création. Enfin bon, on pourrait parler longtemps de ça bien sûr. Alors là, pour terminer, nous allons entendre un prélude, une improvisation faite sur l'orgue de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges par notre organiste titulaire Thomas Lacôte.
Peut-être avant d'écouter cette belle pièce d'orgue, je prends encore les derniers moments de cette émission pour annoncer que Marie-Reine Renon, docteur en musicologie, va assurer un cycle de cours sur la musique d'orgue, justement à Chartres, dans le cycle de notre école des arts et du patrimoine, ici à Chartres même. Et je pense que c'est important de le rappeler. Chère Marie-Reine Renon, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'orgue de Chartres et sur l'orgue de Bourges que vous connaissez très bien? Vous êtes présidente aussi de l'association des orgues de...
Oui. Oui, et puis je
de Bourges. Parlez-nous un peu.
Je joue un autre orgue aussi dans mon département.
Donc la musique d'orgue vous passionne au même titre que les maîtrises dont nous...
Ah ben oui, c'est le côté pratique. Les maîtrises, c'est de la science, c'est du discours, c'est d'écriture. Mais jouer de l'orgue, c'est quand même rentrer dans la musique, chacun à son niveau, mais en faire.
Est-ce que l'orgue était enseigné aux petits maîtrisiens seulement sur demande ou quand on voyait qu'un enfant
était très
doué? Oui,
quand un petit manifestait le goût d'apprendre le clavier, on lui apprenait l'épinette. Il y avait toujours dans les maîtrises une épinette et puis un petit orgue, effectivement, et certains sont devenus organistes.
Voilà, donc il y avait toujours un orgue de chœur qui pouvait accompagner les petits maîtrisiens.
Ah non, pas toujours, un orgue de chœur. Les orgues de chœur, c'est une innovation des années 1850. C'est une innovation romantique pour justement accompagner tous ces chants nouveaux, cantiques, motets en latin qui ont fleuri à cette époque-là. C'est difficile de chanter, par exemple, dans le chœur d'une cathédrale qui est très loin du grand orgue, qui en général est au portail ouest. Donc, c'est pas facile à accompagner. Donc, c'est là qu'on a nécessité de mettre un orgue à côté de ces chanteurs. Quand on avait des saluts du Saint-Sacrement ou des vêpes qui duraient 3 heures, qui étaient quand même des vrais concerts où on chantait beaucoup, il fallait être à côté de son organiste. Quand on fait de l'accompagnement, on a besoin de se sentir les uns les autres.
Alors, où est placé l'orgue à Bourges?
Alors, le grand orgue est placé au revers de notre grand jugement dernier connu sur un des 5 portails de Bourges, donc côté ouest. Et puis, l'orgue de chœur, il est placé, quand on regarde le chœur, il est placé à gauche.
Et comment est-ce que l'organiste pouvait communiquer et suivre la liturgie? Parce qu'a priori,
en tournant la tête, en regardant. Il y a aussi un jeu de miroir qui fait qu'en jouant, on regarde. Bien sûr, maintenant, on a des petits écrans à côté de nous, donc on voit beaucoup mieux. C'est très important, c'est sûr, parce qu'il faut qu'on voit les prêtres, il faut qu'on voit les choristes, il faut qu'on voit si on joue un mariage, il faut voir quand les gens arrivent. Malheureusement aussi, on est obligé de voir les cercueils. Enfin, il faut qu'on sache vraiment ce qui se passe.
Ce sont vraiment des multitalents, ces organismes.
Parce qu'avant, on était entouré de gens qui nous aidaient à tirer les jeux, qui nous disaient ce qui se passait en bas. Mais il n'y a rien de tel que de le voir soi-même. Parce qu'on s'arrête pas bêtement quand un cortège est arrivé. Il faut savoir faire une cadence. Bon, ben, on a tous appris à faire une cadence, mais il faut voir qu'ils vont arriver. Donc, on se prépare, on fait ce qu'il faut pour que le son
pour
s'arrête convenablement.
Pour que la musique se termine
absolument, qu'elle arrive à terme de façon normale.
La musique d'orgue, est-ce que vous pouvez déjà nous révéler un tout petit peu le contenu de
mon
cours?
Oui, puisque j'ai la chance d'être réembauchée pour l'année prochaine. Alors, vous m'avez demandé de parler de la musique d'orgue. Alors, on va parler de la musique d'orgue en France, parce que nous aurons 9 séances d'une heure et demie, donc c'est à la fois beaucoup et court. Pour celui qui parle, c'est toujours trop court. Alors, je vais parler de l'orgue à des époques clés, par exemple l'orgue de l'époque baroque française, l'orgue classique français, époque de François Couperin et d'autres. On parlera facture d'orgue parce que le répertoire d'un orgue va avec la mode de la facture, fatalement. Ensuite, nous nous intéresserons à la musique romantique autour du grand facteur européen Aristide Cavaillé-Coll et de musiciens comme César Franck. Et puis, nous irons voir ce qui se passe ensuite au XXe siècle où il y a eu un regain d'intérêt pour l'orgue ancien. Mais en même temps, il y a eu des trouvailles techniques, donc il y a eu encore un renouveau. Et nous aurons une conclusion avec les grands organistes actuels, les morceaux écrits, les improvisations, tout ce mouvement actuel qui est très florissant. Et on pourra dire, en conclusion générale, que l'orgue est de nos jours, bien sûr, un patrimoine culturel, mais qu'il est devenu aussi un patrimoine culturel et cultuel, disons.
Merci beaucoup, Marie-Reine Renon. À très bientôt.
À vous, merci.
Merci, au revoir.